affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. À l'occasion des obsèques de Jacques Chirac, chacun a pu se rendre compte. La vie politique n'obéit pas seulement à la rationalité, il y entre aussi beaucoup de sentiments. Si bien que le cadre rigide de nos institutions a bien de la peine à contenir les élans du cœur. Certains termes trahissent d'ailleurs cette ambivalence. Que l'on songe à élection, qui ressort à la fois du registre constitutionnel et du registre amoureux. A-t-on jamais souligné ceci ? La démocratie est un régime d'élection. Pour y ravir le pouvoir, il faut d'abord gagner les cœurs. La démocratie exige la séduction. Elle est une relation tissée de promesses, de déclarations, de déceptions, de réconciliations. Tout cela tisse évidemment une trame extrêmement romanesque. D'autant que, comme chacun sait, le mandat républicain ne scelle pas une union indissoluble. L'élection est aussi une occasion de congédier. Et si l'on ajoute à cela que la France est aussi le pays le plus littéraire du monde, une nation dont l'unité ne repose que sur des idées et dont l'histoire est un roman national, on est conduit à penser qu'à côté des politologues, des sondeurs ou des constitutionnalistes, les écrivains devraient avoir leur mot à dire, eux aussi, sur la vie politique. Et même des écrivains qui se sont penchés sur les inflexions du cœur, sur la complexité des relations amoureuses. C'est pourquoi, chers amis, aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir dans notre studio Jean-Marie Rouard de l'Académie française, qui vient de publier, dans la célèbre collection bouquins, un recueil de textes titré, justement, « Les aventuriers de Morny à Macron ». Un vaste programme de Morny à Macron, et qui contient également, j'appâte d'ores et déjà nos auditeurs, une série de portraits acides consacrés ceci exclusivement aux figures politiques les plus marquantes de la Ve République de Gaulle à nos jours. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout livre a une histoire. Pouvez-vous nous parler de la genèse de celui-ci ? Comment vous en est venue l'idée ? D'autant que c'est un livre en deux temps, je l'ai dit. Il comprend des textes anciens comme ceux consacrés à Morny, au cardinal de Berny ou encore à Napoléon, et cette série de portraits acides.
Alors, le livre s'appelle « Les aventuriers du pouvoir ». Parce qu'en fait, ma réflexion, disons, mon observation, depuis très longtemps, par le journalisme, parce que j'ai commencé, avant d'écrire des livres, j'ai commencé par écrire un livre qui a été refusé, et donc j'ai trouvé comme métier d'être un observateur politique, au Figaro, puis au Quotidien de Paris. Et c'était une volonté, c'était vraiment un choix, parce que je trouvais que le monde politique était extraordinairement littéraire, puisque d'une façon ou d'une autre, il posait une autre question qui m'a toujours passionné. Je ne suis pas un historien, mais j'adore l'histoire, et qui était la question de la France. Voilà, la France, ce pays complexe, divisé, vraiment ce mystère français qu'on a tellement étudié, qu'il y en a. Et Napoléon avait une phrase merveilleuse, il disait « Si on veut comprendre l'histoire de France, ou bien il faut lire un livre, ou bien il faut en lire 450. » C'est-à-dire que, ou bien c'est assez simple. Et d'ailleurs, on le voit, autrefois, il y avait le Malais Isaac qui donnait une idée simple de l'histoire de France. Et je me souviens quand Nicolas Sarkozy a voulu créer son musée de l'histoire, et il nous avait invité quelques historiens. Et je lui ai dit, monsieur le président, c'est pas possible, vous pouvez pas faire un musée de l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire est très compliquée. Avec Malaisa, on pourrait encore faire une histoire de France. Maintenant, c'est impossible, puisqu'il y a toute une réévaluation, une interrogation. La guerre de 14, maintenant, c'est extrêmement compliqué. Il y a aussi, dans la guerre de 14, tous les pacifistes, tous les gens qui ont été condamnés, les pacifistes condamnés. Donc, L'histoire de France, c'est vraiment d'une complexité, c'est absolument passionnant, parce que c'est à la fois tissé par la littérature, la France est une création littéraire, vous avez tout à fait raison, c'est en même temps un élément de l'unité nationale, et ce sont que nos contradictions, et nos contradictions qui sont là depuis très très longtemps. Il y a une dualité permanente dans tous les domaines. Et donc c'est pour ça que j'ai donc écrit ces trois biographies, qui étaient des biographies très personnelles. Hein. Ce sont une de Napoléon ou la destinée, Bernice, le cardinal des plaisirs, et Morny, un voluptueux au pouvoir. C'est vrai qu'à travers ces trois personnages, il y avait un peu une identification. D'ailleurs, Jean Lormesson, qui avait fait un article dans le Figaro Magazine sur mon livre sur Napoléon, avait dit « Ce n'est pas une biographie, c'est une autobiographie ».
Oui, mais c'est aussi une autobiographie pour les Français, car à travers les portraits que vous faites de ces personnages historiques, mais aussi de nos dirigeants actuels, il y a à l'évidence une sorte de jeu de miroir. On se contemple aussi dans nos dirigeants, et l'on souhaite s'y contempler, on souhaite s'identifier à eux.
Je crois que c'est en effet, il y a cet élément d'identification, mais au-delà, il y a une sorte de déification. Vous savez, il y a un philosophe qui disait « J'appelle Dieu la forme de mon espérance ». Et depuis que Dieu est mort, il n'est pas mort pour tout le monde, mais il est mort pour beaucoup de gens, les gens se sont tournés vers la politique. Et surtout en France, puisque c'est la France, tout dépend de la politique, tout dépend de l'État. Et on l'a vu commencer avec Napoléon. Napoléon, il y a eu un éclairage mystique de Napoléon et un éclairage christique. Donc les gens qui avaient été très déchristianisés par la Révolution, par le 18e, par Voltaire, eh bien, avec Napoléon, on retrouvait à travers un homme d'État quelque chose qui leur rappelait, qui était une correspondance, disons, de la mystique. Ils se sont mis à l'idolâtrer. Et évidemment, le martyr de Sainte-Hélène n'a rien arrangé, parce qu'on s'est dit c'est vraiment l'image du Christ. C'est vraiment cette image presque d'homme qui vous dépasse. Et c'est vrai que c'est resté. C'est resté d'autant plus que, disons, dans la démocratie, dans le régime républicain, eh bien, il est resté quelque chose de l'Ancien Régime, il restait beaucoup de l'Ancien Régime, mais qu'on ne voit pas, qui est resté inconscient, et qui est le roi thaumaturge, le roi qui guérissait les écrouelles. Donc, et c'est resté, je crois profondément. On imagine que le chef de l'État, d'une certaine façon, est capable de faire des miracles. Ce qui fait qu'il y a à la fois deux éléments, un élément de mythification, et donc de déification, et un élément d'identité. On s'identifie. Et on s'identifie, vous savez, à la fois aux héros de romans et à ces grands héros de romans que sont les hommes politiques qui nous gouvernent ou qui tentent de nous gouverner.
Alors, ce qui est intéressant, si on prend cette grille de lecture, admettons donc que nous souhaitions nous identifier à nos dirigeants, il y a plusieurs façons de s'identifier. On s'en rend compte en parcourant cette galerie de portraits. Certains nous hissent au-dessus de nous-mêmes, nous font désirer un destin plein de grandeur, fut-il aussi de fracas. D'autres jouent sur cette identification en se rapprochant de nous. Et on a le sentiment qu'il y a une oscillation comme ça entre ceux qui veulent nous hisser au-dessus de nous-mêmes ou ceux qui veulent se rapprocher, dire qu'ils sont pareils, des présidents normaux, comme disait l'autre.
Oui, alors vous imaginez bien que dans les hommes politiques contemporains, ma préférence, parce que c'est un livre subjectif, hein, c'est un livre qui tient parfois de la caricature. J'étais, excusez-moi le terme, mais j'étais un peu vache avec certains, j'ai pas hésité, parce que je crois que c'est aussi là, ça fait partie du jeu. Nous sommes les hommes publics, tous les hommes publics, que ce soit les hommes politiques ou même les écrivains, ils sont jugés, et c'est très bien. Donc je les ai jugés parfois un peu sévèrement, et ma préférence va bien entendu à ceux qui sont sur le modèle des grands héros auxquels j'ai consacré une biographie, qui se rapprochent le plus de Napoléon, de Bernice ou de Morny, parce que disons, ils étaient dans une vision culturelle, littéraire des choses. Et évidemment, on a beaucoup plus de mal à en trouver aujourd'hui, parce que la littérature compte beaucoup moins, les références à l'histoire comptent beaucoup moins. On voit même des présidents qui sont vraiment, qui connaissent pas du tout l'histoire de France. Et donc, c'est vrai que ma préférence va à des gens comme le général de Gaulle, bon, même si je peux être critique avec lui, ou François Mitterrand, qui sont vraiment des hommes politiques qui vivaient en permanence au contact de l'histoire de France.
Oui, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas seulement des personnages de romans, ils vivaient cette littérature, ils l'avaient en eux. C'était des figures de présidents littéraires, en quelque sorte.
Oui, oui, et je crois qu'ils avaient le sentiment d'une proximité avec les écrivains. J'étais frappé, d'ailleurs, avec De Gaulle, je ne l'ai vu qu'une fois et je n'ai pas pu parler avec lui. Mais en revanche, j'ai beaucoup fréquenté François Mitterrand.
Oui, il faut que vous nous racontiez cette escapade dans le Morvan, quand même.
Et c'est vrai qu'il m'a dragué. Enfin, je venais d'avoir le prix Interallier et je l'ai rencontré dans un restaurant à Paris tout de suite. On parlait de littérature et il m'a demandé de prendre contact avec sa secrétaire pour passer une journée à Château-Chinon, l'endroit où il était. Et nous sommes partis dans une escapade sous la neige. C'était là aussi très romanesque. J'étais dans une voiture qui était une voiture du constructeur automobile Ligier, qui était un prototype qui était complètement...
Et conduite par Ligier.
Conduite par Ligier. Et c'était un prototype qui ne fonctionnait pas. Enfin, les essuie-glaces ne fonctionnaient pas, rien ne fonctionnait. Et à l'avant, il y avait Grossouvre, c'est ce personnage aussi très, très romanesque. Et à l'arrière, j'étais avec François Mitterrand, et nous parlions de Drieu-La Rochelle, de Chardonne, de Chateaubriand. C'était...
Que des écrivains de gauche.
Que des écrivains de gauche. Mais c'est ce qui était... Ce qui avait été sympathique chez lui, c'était, au fond, une forme de liberté. Il aimait bien pouvoir montrer à ses amis socialistes, est-ce qu'il était vraiment socialiste, je ne sais pas, mais enfin, d'une certaine façon, il aimait bien montrer sa liberté littéraire, et vraiment, et c'était très sympathique. Je dois dire, nous avons déjeuné là-bas, nous avons passé la journée à nous promener, et puis ensuite... Eh bien, il m'invitait régulièrement dans un restaurant qui s'appelait Dedin Bouffon, avec des amis, comme ça, et nous parlions de l'histoire. Moi, je l'interrogeais beaucoup. À ce moment-là, j'écrivais un livre qui s'appelait Avant-guerre, sur la résistance, et je l'interrogeais beaucoup sur cette période, et je sentais un homme vraiment qui avait l'amour des lettres chevillé au corps.
Alors, précisément, il n'était pas le seul. On a cité De Gaulle, on pourrait citer Pompidou aussi, mais Villepin. Si on dressait une géographie des préférences littéraires de nos hommes politiques, quelles seraient les grandes familles ?
Les grandes familles de...
Ou les figures saillantes.
D'écrivains qu'ils aiment.
C'est ça. Par exemple, vous dites Mitterrand est barésien.
Oui. Oui, disons, vous savez, dans les amours qu'on peut avoir pour les écrivains, et c'est mon cas, hein, il y a à la fois les écrivains qui sont absolument... dont on ne peut pas échapper. C'est très difficile de ne pas aimer Chateaubriand. Bon, moi, j'adore Chateaubriand comme Jean d'Ormesson. Mais j'avais des discussions avec Jean d'Ormesson parce que je ne trouvais pas l'homme très sympathique. Je trouvais que l'homme était un homme plein de palinodies, un homme qui avait changé la vie. Mais je trouvais l'écrivain, bien sûr, magnifique. Donc on peut avoir des attirances objectives pour des écrivains exceptionnels, et puis avoir une sensibilité particulière vis-à-vis des écrivains qui peuvent être moins connus. Par exemple, moi, j'aime beaucoup Drieu-La Rochelle, bon, qui est peut-être pas Tolstoï, mais qui est un écrivain qui me touche énormément. Donc je crois que les hommes politiques sont pareils. Ils peuvent avoir des attirances personnelles. C'était donc, pour François Mitterrand, c'était Chardonne, qui pour moi n'est pas un écrivain que je lis couramment. C'est pas mon écrivain préféré. Donc, pour Villepin, on voit très bien que ce qu'aime Villepin, il a un côté très, très romantique. Et c'est les écrivains qui meurent à 25 ans, vous voyez, c'est les écrivains maudits. Il a une passion pour les maudits. Et d'ailleurs, c'est très curieux, le personnage de Villepin m'a beaucoup intéressé. Je fais un portrait qui est à la fois très louangeur. Je montre à l'ONU à quel point il est vraiment une figure d'archange. On a une espèce de grand chien Barzoï, vous avez ces chiens magnifiques. Etc. Et en même temps, c'est un homme qui est complètement dans les soutes du pouvoir, qui est avec le général Rondeau en train de faire des manipulations bizarres. Il y a un côté Fouché chez lui. Il y a un côté Alcibiade et un côté Fouché. Donc c'est un personnage qui est très, très intéressant littérairement. Ça permet de dessiner un personnage tout à fait contradictoire et intéressant.
Est-ce que vous me permettez de faire une citation de votre livre ?
N'hésitez pas.
À cet égard, car elle nous ramène au problème de l'identité française et du rôle qui tient la littérature, et du rôle que tient la littérature en politique. À propos donc de Villepin et de son amour pour la poésie et pour les poètes maudits. À force de surévaluer la poésie, d'en faire l'apanage d'une élite sacrée, Villepin risque de la ramener à une gnose, à l'usage exclusif des initiés. Il sous-estime, à mon sens, son rôle social. Donner une inspiration idéale à toutes les couches sociales, défendre la justice, ouvrir l'horizon, faire aimer la vie. Et c'est cette mission qu'ont rempli des écrivains volontairement exclus de son panthéon, Montaigne, Racine, Chateaubriand, Voltaire, Hugo, Valéry, Claudel, Mauriac, qui portent aujourd'hui la tare aux yeux d'un siècle qui a fait de la subversion une valeur, de n'avoir connu ni la prison, ni le crime, ni l'abjection. Villepin prend le parti d'oublier un instant que c'est aussi sur eux qu'il s'appuyait, eux qui lui insufflaient leur idéal lorsqu'il parlait avec tant d'éloquence à la tribune des Nations Unies. Rimbaud, lui, ne se serait pas dérangé.
Mais c'est vrai, c'est une contradiction, disons, à la fois sympathique et parfois ridicule de la bourgeoisie française. Cette bourgeoisie qui a été tellement liée au genre du roman. Et on peut aujourd'hui regretter que cette bourgeoisie ait tendance à disparaître, en tout cas dans ce lien qui l'unissait au roman. C'est-à-dire que cette bourgeoisie a envie, disons, d'avoir des éléments, des anticorps, qui lui permettent de s'élever spirituellement. Et elle les trouve dans la littérature. Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir, enfin, autrefois, parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui récitent des vers de Rimbaud, mais autrefois,
la poésie a beaucoup de succès,
on voyait des gens comme Pompidou, par exemple. C'est vrai que c'était étonnant de voir Pompidou et qui était pris dans ce dilemme, parce qu'au fond, il aimait Kafka, il aimait Rimbaud, il aimait beaucoup d'écrivains qui, forcément, sont révolutionnaires. Je crois que les écrivains, il y a une... Disons, ils ont permis d'accoucher un certain nombre de valeurs de la société, dont la société a bénéficié. Je veux dire, le combat contre la peine de mort... Le combat pour les femmes, je crois que vous savez, c'est Vigny qui c'était cette phrase merveilleuse sur les femmes. Il dit, après avoir étudié la situation des femmes dans tous les temps et dans tous les pays, je suis arrivé à la conclusion qu'au lieu de leur dire bonjour, on devrait leur dire pardon. Vous voyez, c'est quand même magnifique. Mais on pourrait dire que Flaubert, Madame Bovary, Tolstoï, Anna Karénine, c'est un combat en faveur des femmes, de la femme adultère. Mais il faut voir comment étaient traitées les femmes adultères à ces époques. C'était... Et je ne veux pas défendre l'adultère, mais il y avait dans l'adultère une part de choix personnel, d'amour, bon, qu'on ne pouvait pas que la société condamnait. Ben, ces écrivains ont réussi à réhabiliter, au fond, la femme adultère.
Ça, ce sont des combats d'écrivains engagés qui s'emparent de sujets politiques ou de société. Mais on a l'impression que plus profondément, le rôle de la littérature, c'est aussi d'être une sorte de réceptacle ou de vecteur de l'âme d'un peuple, permettant aux dirigeants de savoir, au fond, à qui ils ont affaire, au-delà des apparences et des vicissitudes de l'actualité. C'est peut-être ce qui manque un peu
oui,
aujourd'hui, quand même.
Je crois que ça donne une élévation, d'ailleurs. Il y a une phrase du général de Gaulle que j'aime beaucoup, qui est un peu dur, là aussi, vis-à-vis des écrivains et même des académiciens. Il dit, nous tous, écrivains et même académiciens, même parfois médiocres, eh bien, nous sommes tous, eux et moi, eh bien, nous menons un combat qui est au-dessus de nous-mêmes. Voilà. Mais je crois qu'en effet, la littérature et les hommes politiques qui ont cette conscience de ce qu'ils doivent faire, eh bien, ils mènent un combat qui est au-dessus d'eux-mêmes. Voilà. Il y a un surmoi qui est important. Et il me semble que la littérature, en effet, c'est pas parce que je suis écrivain que je dis ça, c'est pas un combat corporatiste. Non, pas du tout. Je crois que, en effet, la littérature permettait aux hommes politiques à la fois de se situer historiquement, de comprendre, justement, et c'est frappant chez les deux hommes les plus cultivés de l'histoire moderne, Napoléon et le général de Gaulle, qu'au fond, la France, il y avait un mouvement de la France depuis les origines, un mouvement de liberté et un mouvement, si vous voulez, spirituel de la France. Et que cette idée chrétienne de l'universalité, je crois, était très importante. Je crois que pour comprendre la France, il faut comprendre que c'est un pays archi-chrétien. Et même dans sa laïcité, la laïcité, c'est une forme du christianisme qu'on a trop tendance à l'oublier. Et il est resté, je crois, dans une forme de générosité qui est judéo-chrétienne. Vraiment, je crois que notre imprégnation de ce point de vue-là est indélébile. Mais ça nous amène aussi à des contradictions et à tous nos malheurs viennent aussi de cette opposition entre un christianisme révolutionnaire. On le voit parfaitement chez Mauriac, par exemple. Et puis, en même temps, un catholicisme qui tente de faire rentrer cette révolution dans un ordre social.
En fait, vous l'avez dit, la France est tissée de contradictions. Est-ce qu'une partie de la mélancolie française actuelle ou du malheur français, pour reprendre des titres d'ouvrages récents, ne serait-elle pas plus... facile, non pas à expliquer, mais à saisir en lisant un bon roman plutôt que des traités de sociologie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui peuvent échapper à un regard sociologique et analytique et peuvent être davantage révélées par la littérature. Est-ce que vous acceptez cette idée ?
Bien sûr, mais je pense que la littérature, d'abord, apporte quelque chose qui nous manque, c'est la beauté. C'est la beauté, c'est l'esthétisation de nos drames quotidiens. C'est formidable quand on est malheureux en amour de voir une pièce de Racine ou de lire un texte de Proust. Je crois que ça hisse les hommes au-dessus d'eux-mêmes. Ça, je crois que c'est très important. Mais je crois que ce regard que j'ai porté, moi, sur les hommes politiques contemporains, qui n'est pas celui d'un historien, qui n'est pas celui d'un sociologue. Non, en effet, j'ai essayé de chercher les clés et l'âme de personnages aussi, disons, proches de nous que pouvaient l'être un Jacques Chirac, un Hollande, un Giscard d'Estaing. Voilà. J'ai essayé de les comprendre sous un éclairage littéraire. Et ça, je crois que c'est une fonction qui tend à disparaître. Aujourd'hui, on demande beaucoup aux politicologues, aux gens, à des scientifiques. On croit que la science résout tout. Et il me semble que l'approche par la littérature est une approche, d'abord parce que ça permet des portraits, disons, peut-être plus vivants. On va au cœur des choses et on ne reste pas simplement dans les sciences politiques qui sont, bien entendu, très utiles. Mais il me semble que l'essentiel de la vie est irrationnel. Voilà, je crois que l'intelligence n'est pas tout, l'intelligence rationnelle n'est pas tout, et que la compréhension des hommes passe par une approche qui est celle que j'ai comme romancier. Ce qui m'intéresse comme romancier et comme, pas analyste, mais observateur politique, c'est la destinée. Pourquoi est-ce que subitement, eh bien, se passe chez un personnage eh bien, qui part avec énormément de difficultés, d'adversité, c'est le cas de Napoléon, c'est le cas de Gaulle, c'est le cas de beaucoup d'hommes politiques dont je parle, et puis subitement, les choses s'enclenchent, à force de volonté, mais d'adversité aussi, et ces hommes parviennent à un but mystérieux qu'ils ont cherché, et quelquefois, ce but, je le montre chez Nicolas Sarkozy, par exemple, le jour où il est élu président, il est seul, sa femme l'a quitté, il est dans l'Élysée, il erre dans l'Élysée, c'était absolument atroce. C'est quelque chose de shakespearien. Enfin, shakespearien, on a l'impression vraiment qu'on est... Et l'histoire moderne a comme ça énormément de scènes qui nous montrent finalement que la solitude du pouvoir et que ces tragédies que nous voyons à la Comédie française, eh bien, elles se reproduisent aujourd'hui.
C'est un point important. Vous avez dit que ces portraits étaient méchants, ils sont titrés acides. Moi, je ressens aussi beaucoup de bienveillance dans vos portraits. C'est-à-dire que le trait est rude, mais il n'y a pas de méchanceté perverse. Et on sent que vous épousez aussi leurs difficultés et qu'il y a une forme de bienveillance et qu'il serait utile que nos auditeurs, les Français, lisent vos portraits, car ils se rendraient compte aussi que d'une part, bien sûr, ce sont des hommes de chair et de sang et de sentiments, mais de la difficulté de leur tâche. Non seulement d'un point de vue technique, mais humain. C'est quelque chose d'extrêmement lourd à porter et à vivre, que d'incarner le pouvoir.
Bien sûr, d'autant plus en France, qui est un pays quasiment ontologiquement ingouvernable. Et c'est vrai que j'aime l'humain. J'aime les hommes, les femmes, j'aime les comprendre, c'est vrai que c'est ça. Mais quand même, à partir du moment où ils ont voulu occuper des postes importants, il y avait ce mot terrible, je crois qu'il est encore, je crois que c'est Chateaubriand qui dit « Une ambition dont on n'a pas les moyens est un crime ». Parce que c'est vrai qu'en même temps, il y a des dégâts. Hein. Les hommes politiques font beaucoup de dégâts. Il faut quand même s'imaginer qu'à cause des hommes politiques, nous avons commis la guerre de 14 et 1,5 million de morts. On a eu le refus de la paix séparée à cause de Clémenceau. Ça fait 1 million de morts. Vous voyez, ils ont des responsabilités énormes. Des responsabilités dans notre cadre de vie, dans toutes les destructions qui ont pu avoir lieu. Donc c'est pour ça que je suis parfois un peu sévère avec eux, parce qu'ils ont aussi... Ils ont détruit beaucoup de choses. C'est ce que disait Péguy, d'ailleurs. C'était le fameux... De Gaulle, c'était très souvent Péguy, pour dire que, finalement, les artistes étaient des constructeurs et que les hommes politiques étaient souvent des destructeurs.
Là, pour le coup, c'est sévère. Dans cette relation qui s'établit entre un politique et un écrivain. Vous avez dit tout à l'heure que Mitterrand vous avait littéralement dragué, si je ne me trompe pas. Qu'attend-il d'un écrivain? Est-ce que finalement, un politique qui convie un écrivain ne pense-t-il pas déjà à sa postérité davantage qu'à ses avantages immédiats? C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que si on convoque un journaliste, vous étiez à la fois l'un et l'autre, mais perçu comme un écrivain. Pour preuve, lorsque Sarkozy vous reçoit, il vous dit immédiatement « Vous n'allez quand même pas me poser des questions de journaliste.
»
Voilà. Comment faire la part des choses entre la relation qu'un écrivain peut nouer avec un politique et la différencier de celle qu'un journaliste établit avec un politique?
Bien, écoutez, je crois que ça montre la nature profonde d'un homme politique. Et le fait qu'il s'intéresse, en l'occurrence à moi, mais à travers moi, il me semble qu'il s'intéressait à quelque chose qui me dépassait, qui était en effet cette tentative de maintenir l'esprit dans une fonction, que c'est celle du journaliste, mais quand même au-delà, comme écrivain, je maintenais les valeurs de l'esprit. Et il me semble que c'est ça qui les attire. Peut-être y a-t-il l'arrière-pensée de se dire que peut-être un mot, ce qu'ils vont prononcer, restera un jour, sera dans des écrits, dans des livres, et les livres durent plus que les articles de journaux. Il me semble que c'est ça, mais en même temps, je crois que quand on aime les livres, moi je les vois comme écrivain, moi j'ai adoré rencontrer des écrivains. J'ai passé plusieurs soirées avec Aragon, c'est un merveilleux souvenir. J'ai passé presque toute ma vie avec Jean d'Ormesson, ce sont de merveilleux souvenirs. C'est-à-dire, ce sont des souvenirs qui donnent une éternité à l'instant. C'est ça, l'art, c'est donner une éternité à l'instant. Et il me semble que les petites anecdotes que j'ai avec cette vie partagée avec Jean d'Ormesson ou avec d'autres, avec Michel Déon ou avec d'autres écrivains que j'ai très bien connus, eh bien, c'est vrai, aller vers un écrivain, c'est aller vers quelqu'un qui d'une certaine façon, de la même manière qu'un prêtre, il porte quelque chose avec lui de supérieur et qui vous amène à une certaine élévation. Donc je pense que c'est le critère, c'est vrai. Par exemple, je raconte mes difficultés, mon amitié barbelée avec Valéry Giscard d'Estaing. Et je pense qu'en effet, il y avait une incompréhension réciproque, c'est-à-dire d'un homme remarquable, et d'ailleurs un politique. C'est ça qui était étonnant d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup mieux... j'ai rencontré très souvent Valéry Giscard d'Estaing et j'admirais sa politique. Mais en revanche, j'admirais moins la politique de François Mitterrand, mais j'avais une entente plus grande qui était, en effet, tout à fait littéraire.
C'est probablement le cas de nombreux Français. Je ne parle pas du pas particulier de Giscard d'Estaing, mais c'est-à-dire que la personnalité compte tout autant, probablement, que le programme politique. C'est pour ça que ces portraits sont intéressants. Ils nous éclairent sur cette dimension irrationnelle de la relation politique en démocratie et dans tout autre régime, à ceci près que, bien entendu, ici, il faut séduire pour se maintenir... au pouvoir. On comprend à quel point c'est harassant aussi, comme ça peut être humiliant de perdre une élection.
Oui, mais je pense que la fonction des hommes politiques, en effet, c'est de diriger un pays, c'est de tenter de le diriger, mais aussi c'est cette fonction dont parlait Michelet. Il en parlait pour les héros de romans. Et on pourrait le dire, on pourrait l'extrapoler et dire que ça vaut aussi pour les hommes politiques. C'est que il comparait, Michelet comparait l'existence des héros de roman à la loterie nationale. C'est lire un roman, voir un petit personnage qui part de rien et qui arrive à tout, comme Bellamy, comme Julien Sorel, comme Rastignac, eh bien, ça fait du bien à la personne qui a acheté le livre. Il s'identifie à ce personnage et il a le sentiment d'avoir gagné le gros lot. Vous voyez ? Eh bien, je crois que l'intérêt que peuvent avoir les hommes qui observateurs de l'opinion, qui regardent les hommes politiques, elles les regardent attentivement en disant « Tiens, je pourrais être à sa place ». Et moi-même, c'est vrai, quand j'ai raconté l'épisode de Nicolas Sarkozy, les déboires avec Cécilia, eh bien, j'étais à sa place. J'étais là en train de souffrir, comme j'aurais souffert pour le héros de La recherche du temps perdu, quand Albertine s'en va. Vous voyez, il y a une connotation, il y a un lien. Il y a un lien parce que ces hommes que nous fréquentons, finalement, qui font partie de notre paysage, on les voit tous les jours, les hommes politiques, quand ils sont au pouvoir, eh bien, on finit par avoir avec eux une sorte de connivence, de sympathie ou d'antipathie.
Comment expliquez-vous le plaisir avec lequel les Français, très régulièrement, se livrent un véritable jeu de massacre, c'est-à-dire brûlent ceux-là même qu'ils ont adoré. C'est autre chose que la simple alternance ou le jeu des institutions, non ?
Mais je crois que ça tient, en France, à cette importance de l'État, donc du chef de l'État et de ceux qui postulent, et à la désillusion. Le mécanisme de l'admiration et de la désillusion est le même. C'est un mécanisme de l'amour et de la décristallisation. Je crois qu'on attend énormément des hommes politiques. Et on le voit à chaque fois, à chaque élection. Regardez l'élection de Giscard, et puis ensuite les attaques contre Giscard, l'élection de Sarkozy, et ensuite les attaques contre Sarkozy. Enfin, c'est extraordinaire de voir qu'à chaque fois, il y a cette désillusion, parce que cette désillusion qui vient de la réalité. C'est terrible. De pouvoir... l'homme de pouvoir, disons, on attend tout de lui. Parce que c'est vrai qu'en France, on attend tout de l'État. Nous n'avons pas de société civile. Et donc, c'est de l'État que va venir, imagine-t-on, le bonheur. Il y a une idéalisation, peut-être trop grande, mais qui est vraiment ce qui appartient à ce qu'est la France, à son identité, à son ADN.
Alors, puisque vous êtes un écrivain qui a fréquenté les politiques, mais pas un écrivain de cours, et on s'en rend compte en lisant vos portraits, accepteriez-vous de nous décrypter le cas actuel d'Emmanuel Macron, qui illustre probablement parfaitement cette difficulté des Français à aimer dans la durée leurs dirigeants, les causes de ce désamour actuel et des tensions, de cette relation pour le moins tumultueuse entre le président de la République et les Français?
On pourrait dire que le président Macron est presque caricatural de ce portrait que je fais des hommes politiques. C'est-à-dire qu'il y a eu ce côté miraculeux de son élection extraordinaire. Moi, je n'y croyais pas. Vous voyez, bon, depuis, j'observe les candidats à la présidence de la Ve République, je ne croyais pas à la possibilité de son élection. Et ensuite, quand il a été élu, je ne croyais pas qu'il pourrait avoir une majorité. Donc je me suis complètement trompé de ce point de vue-là. Je l'ai rencontré un petit peu. Je l'ai vu, notamment avant son élection. Il y a une phrase, d'ailleurs, très étonnante, parce que je le vois en bas de chez moi. Il habitait pas très loin à ce moment-là. Et je le salue. Il s'approche de moi. Il me prend la main de façon très intense. Il me plonge ses yeux bleus dans les yeux. Et je le félicite, je lui dis bravo, ce que vous faites est tout à fait exceptionnel, vous êtes vous-même très brillant, mais vous bénéficiez des circonstances. Et il me dit, taisez-vous, j'ai peur que le système n'explose. Et c'était étonnant, c'était 3 mois avant son... Et ce qui était un peu en train de se passer, à la fois, je veux dire, c'est un homme qui est d'une prodigieuse intelligence, je ne sais pas s'il est très littéraire, en tout cas, c'est vraiment une tête philosophique. Il a été très lié à Paul Ricoeur. Et quand on voit les lettres qu'il s'adressait, vraiment, c'est d'un très, très haut niveau. Donc c'est un très brillant intellectuel, un homme très intelligent, très remarquable. Mais il a commis des erreurs. Il a commis des erreurs qui tiennent peut-être à une forme de jeunesse et d'inexpérience. Mais c'est vrai que la rupture, bien sûr, c'est banal de le lire, mais c'est les gilets jaunes. Et cette façon d'une méconnaissance, peut-être, de ce que pouvait être la situation des Français, de la petite bourgeoisie en province, l'importance de la voiture, et tout ça. Et ensuite, il y a eu ce phénomène, cette chose tout à fait étonnante, qui est à la fois ce grand débat qu'il a instauré, qui était à la fois courageux, et en même temps, c'est tombé de l'Olympe ou Jupiter, et de revenir à une décristallisation. Parce que je pense qu'un chef d'État qui reste 8 heures à parler avec des intellectuels, d'une certaine façon, il perd son mystère, il perd sa magie. Et aujourd'hui, on le voit bien, il est dans une position très, très difficile, qui illustre les contradictions françaises. Je crois que les contradictions françaises, c'est... On a besoin d'une réforme, de la réformer un pays, et il y a une impossibilité à le réformer.
Alors ça, c'est l'une des contradictions dans le cas de l'oscillation des sentiments des Français à l'égard du président de la République. Ça nous en apprend peut-être sur Macron. Vous avez disséqué sa formation, peut-être ses erreurs, mais est-ce que ça nous en apprend pas aussi sur nous-mêmes en tant que peuple ?
Oui, bien sûr, mais au-delà de d'une façon exagérée, nous idéalisons le pouvoir, nous idéalisons les candidats au pouvoir. Et ensuite, à la dimension de cette idéalisation, nous les détestons. Nous avons envie de les châtier parce qu'ils nous ont déçus. Ce sont des histoires amoureuses. C'est pour ça que c'est le domaine des écrivains. C'est pour ça que je trouve que c'est un domaine pour essayer de comprendre ce lien mystérieux des Français avec leurs hommes politiques. Eh bien, je pense que les écrivains qui ont ce goût, simplement ce goût, pour détecter l'irrationnel de ces liens.
Dans l'ouvrage, l'intime tient aussi une grande part. Vous nous faites rentrer dans leur intimité. Une des contradictions françaises actuelles n'est-elle pas d'être à la fois en demande de grandeur et de président extrêmement proche. Lorsque l'un est jupitérien, on lui reproche d'être distant, hautain, arc-bouté sur une transcendance et sur les institutions, ce qu'il représente. Aussitôt qu'il descend de son piédestal pour aller à la rencontre, on le trouve banal, pas assez inspiré.
C'est vrai, c'est une contradiction des Français qui sont à la fois, il faut leur donner le sentiment d'être proches et en même temps suffisamment lointains pour pouvoir continuer à être admirés. Vous savez, il y avait cette fameuse phrase, il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Et donc plus on se rapproche des Français, plus on risque d'être critiqué. Mais ça, c'est la, disons, la bonne mesure entre être trop proche et trop lointain, ça, ça fait partie aussi du génie d'un homme politique. Il y a une bonne distance et je crois que on gagne plus à rester mystérieux. Et quand vous prenez les grands modèles, quand vous prenez le modèle de Napoléon, bon, vous allez me dire que c'est de Napoléon, c'est dans une autre époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais enfin, quand même, vous savez, ça reste. Et on voit bien, à travers l'histoire, on voit bien les erreurs, indépendamment des changements technologiques. On voit bien les grands hommes d'État, les hommes d'État qui... Et on voit bien les erreurs de Louis XVI, on voit bien les erreurs de Louis XV. On les voit, elles sont toujours là, hein, ce sont des erreurs. Donc, je crois que un chef de l'État a toujours intérêt à rester dans une forme de mystère. Et les risques qu'il prend en restant mystérieux sont moins grands que ceux qu'il a à être trop proche.
Si je peux vous faire part d'une interrogation, ça m'a surpris. Les portraits ne sont pas dans un ordre chronologique. Qu'est-ce qui a guidé votre choix dans la façon de les présenter ?
Non, j'ai essayé de les classer entre ceux qui étaient des personnages mythiques, comme, d'une certaine façon, par leur personnalité, De Gaulle, Mitterrand, ceux qui avaient réussi à faire quelque chose au pouvoir, comme Giscard, comme Macron, comme Sarkozy, et puis ceux pour lesquels je trouve qu'ils avaient un peu raté leur... comme Chirac, là je suis peut-être un peu sévère, je l'appelle le Paganini de la Palinodie, c'est un peu sévère, mais disons, et ceux qui finalement dont il y a eu une énergie fabuleuse, mais au service d'une ambition, mais dont on ne voit pas très bien quel en a été le résultat. Même le résultat, quand ce sont des gens qui se sont comportés, disons, en tueurs, ce qui a été le cas de Chirac, c'est un homme qui a éliminé tous ses concurrents. Mais ça, à la limite, on peut le comprendre. Quand on a lu Shakespeare, on voit... et l'histoire, on voit que, très souvent, il y a des hommes politiques qui n'ont pas été des anges. Mais même s'ils ont pu être des tueurs, ils sont arrivés à un résultat. Et d'ailleurs, on va commencer par De Gaulle, qui a quand même éliminé beaucoup de gens. Mais c'était pour un résultat. Il y avait vraiment... c'est une vision presque jésuitique, on pourrait dire, de la politique. Et on peut utiliser des moyens un peu torves et sournois, mais en même temps pour un idéal. Et donc c'est ça, c'est ma classification. Je crois, je fais pas de la morale parce que je trouve que c'est insupportable les gens qui font toujours de la morale. Non, j'essaie de voir en quoi ces hommes ont été utiles et en quoi ils ont réussi à illustrer l'histoire de France.
Alors, vous avez parlé de l'envahissement de la morale. Je parlais tout à l'heure de désarroi. Le livre se termine, enfin, cette série de portraits se termine par Douste Blasie, Mercurochrome universel, et puis point final, il n'y en a plus après. Est-ce que vous comprenez qu'on soit plongé dans un certain désarroi ? On souhaite avoir être aspiré à autre chose après ce point final. Est-ce que...
Alors oui, mais
c'est sûrement volontaire, mais aidez-nous à ressurgir.
Quand même. J'ai voulu montrer, si vous voulez, aussi le caractère un peu amusant des choses. Voilà. Pour moi, un écrivain aussi, il a ce souci de comprendre, ce souci de percer des mystères, mais il a aussi le souci de que le lecteur s'amuse en même temps. En le lisant, que ce ne soit pas seulement un devoir de Sciences Po, vous voyez, que ce soit une fantaisie. Voilà. Et dans certains portraits, j'ai peut-être abusé de la fantaisie pour séduire le lecteur. Et après tout, voilà, parce que c'est ça aussi, je crois que c'est une... on peut avoir une réflexion que j'espère être un peu élevée sur les contradictions françaises, mais en même temps... s'amuser à la manière des caricaturistes.
Vous avez tout à fait raison de le rappeler. On s'amuse beaucoup en lisant ce livre. On rit même, franchement. On rit parfois, on est un petit peu aussi... confrontés à des abîmes qui sont sûrement ceux de notre histoire et de notre identité. C'est pourquoi j'invite nos auditeurs à s'y plonger. Ce sera à la fois une exploration de cette galerie de portraits d'hommes, de ces animaux un peu bizarres, de ces êtres humains à part que sont les politiques, mais aussi certainement un exercice d'introspection. J'ai dit que les écrivains pouvaient être convoqués pour analyser la vie politique au même titre que les politologues ou les sondeurs. Généralement, les politologues et les sondeurs, on les interroge aussi sur l'avenir. Est-ce que vous acceptez de nous faire part de votre vision de l'avenir de cette scène politique, ou vous préférez en rester là ?
Non, bon, je suis inquiet, mais je crois qu'en cela, je ne suis pas très original. Je partage aujourd'hui l'inquiétude sur ce que va devenir la France, ce pays pris entre tellement de contradictions, à la fois son désir d'universalité, cette vision à la fois européenne, mais en même temps cet enracinement, cette difficulté de sortir de toutes ces pesanteurs, cette pesanteur qui sont à l'intérieur de la France. Je crois que c'est un moment, on est à un moment grave, un moment de décision, et il faut espérer que nous en sortirons, parce que la France a traversé des périodes noires et puis des périodes lumineuses. Eh bien, il faut espérer que, après les difficultés, viendra la lumière.
Merci Jean-Marie Roy. Je rappelle Merci. Les références du livre dont nous parlions, Les aventuriers du pouvoir de Morny à Macron. C'est dans la célèbre collection Bouquins chez Robert Laffont, et donc par Jean-Marie Roy de l'Académie française. Merci encore.
Merci. Thank you.